19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dans 5 minutes, vous retrouverez votre magazine Dialogue des religions avec Idrissa Seydou Dia. Mais d'abord, le bulletin d'information au micro, Lola Akomatri. Au Niger, un nouveau rebondissement dans l'affaire du trafic de bébés. Le président du Parlement nigérien, Amadou, souhaite qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre lui. C'est ce qu'il a annoncé sur Radio France Internationale. Mesure qui, affirme-t-il, lui donnera l'occasion de se défendre. Aujourd'hui en France, le président du Parlement principal opposant du président Mahamadou Issoufou, s'était enfui au Burkina Faso le jour où ses pairs avaient autorisé son audition par la justice pour une affaire de trafic de nouveau-nés en provenance du Nigeria. L'une de ses épouses est actuellement incarcérée dans le cadre de cette affaire. En RCA, l'examen du baccalauréat qui devrait avoir lieu le 2 septembre dernier a été reporté de 2 semaines en raison de la crise sociopolitique que traverse le pays. Il faut dire que le système éducatif a beaucoup souffert de la guerre. Enseignants, élèves et étudiants agressés, des écoles pillées et saccagées, tels sont entre autres certains des problèmes qui affectent le système éducatif centrafricain. Du coup, le déploiement des casques bleus dans le pays à partir du 15 septembre prochain suscite beaucoup d'espoir dans le milieu éducatif. On écoute Gervais Pangandé, chef secteur à l'inspection académique du centre sud à Bangui.
Ce que nous attendons, c'est que cette force puisse se déployer à travers le pays, surtout dans les allées du pays, afin que la sécurité puisse revenir totalement, pour que l'éducation puisse aussi mettre en pratique son programme proprement dit. Vous savez, d'ici peu, il y aura le baccalauréat, il y aura une nouvelle rentrée scolaire, mais tous les enseignants n'ont pas pu rejoindre le poste, tous les élèves n'ont pas pu être sur place parce qu'ils ont encore peur, parce qu'on entend par ici les anti-Balaka, les Seleka, ils créent un peu de désordre un peu partout. Notre souhait le plus absolu, c'est qu'il faut s'efforcer de casque bleu pour vraiment s'étendre sur toutes les arrêts du pays afin que la sécurité puisse revenir, pour que aussi on puisse franchement mettre l'éducation en marche.
Au Burundi, plusieurs milliers de personnes ont assisté à Bujumbura aux funérailles des 3 sœurs italiennes assassinées dans le couvent de Kamenge. Elles étaient âgées de 75 à 83 ans. On ignore toujours les raisons de ce crime. Droits de l'homme en Gambie, Amnesty International et Human Rights Watch appellent le président Yahya Jammeh à invalider une loi instituant la prison à vie pour homosexualité aggravée. D'après ces organisations, la loi récemment voté par l'Assemblée nationale pourrait permettre de condamner des personnes séropositives à la prison à vie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le secrétaire d'État américain John Kerry prédit que la coalition internationale que Washington essaie de constituer finira par défaire les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Monsieur Kerry a fait cette déclaration aujourd'hui à Bagdad à l'issue de ses entretiens avec le nouveau premier ministre irakien Haider al-Abadi. Les précisions de Michel Joseph.
C'est par Bagdad que M. Kerry a commencé sa tournée d'une semaine au Moyen-Orient pour impliquer les pays de la région dans le combat contre les militants de l'État islamique. Sa mission, a-t-il précisé, est de mettre sur pied la coalition internationale la plus large possible. Certains partenaires aideront à entraîner, armer et équiper les forces irakiennes. D'autres fourniront de l'assistance humanitaire ou aideront à tarir les sources de financement des djihadistes et à empêcher des combattants étrangers à se joindre à eux. John Kerry tenait aussi à exprimer le soutien de Washington au nouveau gouvernement du Premier ministre Haider al-Abadi. Il s'est félicité de son engagement à procéder à de profondes réformes pour amener autour de la table tous les segments de la société irakienne. On reprochait à son prédécesseur, le chiite Nouri al-Maliki, d'avoir marginalisé la minorité sunnite, favorisant ainsi la montée des extrémistes.
En Ukraine, le président Petro Poroshenko soumettra un projet de loi au Parlement la semaine prochaine, accordant plus d'autonomie à des régions de l'Est séparatistes tout en les gardant sous le drapeau ukrainien. Il a promis un statut spécial à certaines villes des régions de Donetsk et de Lugansk, contrôlées par les rebelles. Poroshenko rejette cependant la fédéralisation ou l'indépendance totale de ces zones. Kiev et les rebelles séparatistes ont signé un accord de cessez-le-feu la semaine dernière. Fin de ce bulletin d'information. À présent, votre émission Dialogue des religions. Ce soir, il est question du mariage homosexuel aux États-Unis et c'est avec Idrissa Seydoudia.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à toutes au micro, Idrissa Seydoudia. Dans le dialogue des religions de ce mercredi 10 septembre 2014, l'improbable alliance de 5 dénominations chrétiennes des États-Unis contre le mariage homosexuel, surmontant leurs divergences théologiques, la National Association of Evangelicals, la Conférence des évêques catholiques, l'Église luthérienne, la Southern Baptist Convention et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, l'Église mormone, ont dans un mémoire d'Amicus Curiae, une façon d'appuyer une des parties prenantes, collectivement saisi la Cour suprême des États-Unis pour qu'elle se prononce une fois pour toutes en faveur du mariage comme étant l'union entre un homme et une femme. Qu'est-ce qui amène ces frères ennemis à faire front commun et quelles peuvent en être les répercussions? C'est le thème de cette émission. Nous avons aujourd'hui comme invité le pasteur Daniel Capepula du Centre chrétien de la Victoire dans le Maryland, ici aux États-Unis. Notre ami Fidel Ayu Lumeya, écrivain, consultant en développement des organisations basées aux États-Unis. Et M. Prince Kamano, un Guinéen, ressortissant guinéen, républicain, basé ici à Washington, D.C. Alors, messieurs, est-ce que vous m'entendez?
Je suis là, je t'entends. Et je salue M. Capepula et puis Prince Kamano.
Merci beaucoup, merci. Alors, donc, on va commencer avec Prince Kamano. Prince, vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement.
Alors, parlez-nous de ce débat en tant que profane.
Oui, bien sûr, en tant que profane, parce que je ne détiens aucun autre titre religieux. Je suis simplement catholique, mais je ne suis pas chef religieux. Je parlerai simplement du point de vue du citoyen américain et aussi catholique de foi. Et le problème ne se pose pas, à mon avis, au niveau du rejet, par exemple, des homosexuels. Nous acceptons le principe que Dieu aime tous ses enfants dans la religion, selon notre religion, notre foi. Ce que nous ne sommes pas d'accord avec, c'est le péché. Et donc, les gens croient que c'est une dichotomie ou alors une sorte d'hypocrisie. Et nous embrassons, disons, d'une part les homosexuels en tant qu'individus et nous rejetons l'homosexualité. Eh bien, l'acte est condamné par notre foi, mais l'individu est accepté comme le fils de Dieu. Je ne vois pas de contradiction dans ça, personnellement.
Merci, Prince. Alors, avant de passer la parole au pasteur Daniel Capepula, dont la position est bien connue, puisque ce n'est pas la première fois qu'il participe à cette émission, je voudrais demander à Fidel de nous dire, en réalité, le problème tel qu'il est perçu ici aux États-Unis n'est pas tellement religieux, c'est un problème de droit humain.
Oui, c'est vrai, Idrissa, comme vous le définissez. D'ailleurs, même le deux concepts qu'on est en train d'utiliser, le mariage, comme les définit les églises, Et puis dans la communauté connue de LGBTQ, ils ne définissent pas ça comme mariage, ils parlent de l'union entre un homme et une femme.
Oui, mais comme on l'a vu, le gouvernement fédéral, après certaines décisions de la Cour suprême, a décidé d'accorder les mêmes droits à un couple homosexuel qu'à un couple hétérosexuel.
Oui, c'est comme l'a dit notre frère Prince, il y a beaucoup de contradictions dans cette question. La première est que même au niveau des églises, nous l'avons dit plusieurs fois dans cette émission ici, la séparation entre l'Église et l'État. Et quand vous lisez la Bible est claire, surtout l'apôtre Paul, qui dit « Quand vous avez des difficultés entre vous, en tant que chrétiens, chrétiennes, ceux qui acceptent Christ, n'allez pas en dehors de ce cadre chrétien. » Et l'Église, en amenant cette question de gens avec des alternatives sexuelles, à la cour, en voulant faire du bien à elle-même en tant qu'Église, elle commet déjà aussi un péché, s'il faut l'appeler, de désobéir à ce que l'apôtre Paul a recommandé si, en termes de conflit au sein de l'Église. Donc ici, c'est tous ces conflits ici qui existent entre vouloir obéir à la parole de Dieu et condamner d'autres personnes parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu.
Merci, fidèle. Pasteur Daniel Capepula, vous m'entendez? Allô?
Je vous entends.
Ouais, alors, merci encore une fois de participer à cette émission. Je voudrais vous demander, en tant qu'homme de Dieu, quel est votre problème avec le mariage homosexuel?
Le problème n'est pas notre problème. C'est l'Église d'abord. Je voudrais dire ceci. Jésus a dit que l'Église et nous qui tenons la parole, nous devons être les seuls du monde et nous devons être la lumière. Si nous ne montrons pas la lumière de la création comme Dieu l'avait créée, Dieu qui respecte les droits de tous, qui n'a pas fait Eve et Steve et Adam. Adam et Steve, non. Il a fait Adam et Eve. Alors aujourd'hui, si nous voulons changer, exploiter des choses hors biblique, là, nous ne devons pas dire que c'est l'Église. Non, l'Église ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu appelle péché. Alors, ce que Dieu condamne, l'Église doit le condamner. De deux, si l'Église ne fait plus le travail du sel, le monde va pourrir. Imaginez-vous maintenant, quand on accorde tous les droits, tous les enfants qui vont grandir dans des foyers homosexuels, ça sera une vie normale et que deviendra le monde de demain. C'est ça le problème aussi.
Ok, merci. Alors, on a un auditeur, je lui cède la parole. Monsieur Diallo, présentez-vous, oui. Présentez-vous.
Moi, c'est Diallo Abdelaziz depuis Conakry.
Ok.
Guinée-Conakry.
Allez-y.
Oui, moi, je voudrais savoir pourquoi aux États-Unis, les présidents des pays occidentaux là, ont légalisé l'homosexualité. Maintenant, pourquoi ils veulent imposer cela en Afrique? Parce que quand nous regardons ce qui se passe en Ouganda avec le président Museveni, les États-Unis, les puissances occidentales ont poussé le président à adopter cette loi. Maintenant, pourquoi cette pression occidentale? Parce que si nous voyons, les pays n'ont pas les mêmes cultures. Pourquoi cette pression au niveau des présidents africains?
Merci. Alors, je cède la parole à... au prince Kamano, prince et à Fidel qui suivent ces questions politiques. Allez-y.
Bon, moi, personnellement, c'est prince Kamano. Et je crois bien que même le dialogue qui se tient aujourd'hui n'aurait pas eu lieu si ce n'était pas, à mon avis, toute une scène érigée par la classe dirigeante qui détermine actuellement l'opinion publique, en politique, en éducation, en communication, en divertissement, qui est en train de faire usage de la loi dont cette classe dispose pour imposer une nouvelle forme de moralité à tout le monde. Il a toujours existé, à mon avis, l'homosexualité. Mais Ça n'avait jamais été un problème sur lequel l'Église devrait se prononcer. L'Église a accepté les homosexuels en tant qu'individus. Aujourd'hui, le gouvernement veut nous imposer qu'on accepte l'homosexualité comme une forme de vie, une forme de moralité. Et c'est le pouvoir qui est en train de créer toute cette diversité ou toute cette discussion autour de l'homosexualité. Ça n'a pas été créé hier. L'homosexualité n'est pas venue hier. C'est la forme de nous imposer l'acceptabilité de l'homosexualité comme une moralité que le gouvernement et les gouvernements utilisent aujourd'hui pour des fins politiques et imposent cela à l'Église pour que l'Église se prononce là-dessus. Et l'Église ne manquera pas de se prononcer là-dessus parce que c'est dans les Écritures. C'est donc une provocation érigée en opinion ou alors en forme de civil right,
de droit civique,
est en train de faire.
De droit civique. Ok. Alors, Fidèle, la question de notre ami Abdelaziz Diallo portait aussi sur les Occidentaux, selon lui, qui essaient d'imposer cette façon de voir à des pays africains, dont l'Ouganda, que vous connaissez très bien.
Oui, il y a deux tendances ici. La première, je crois que le président Obama s'est prononcé clairement que la question des homosexualités, même en Afrique, doit être considérée comme une question des droits de l'individu. Et il a demandé à ce que le président africain puisse respecter ses droits qui est reconnu à chaque individu qui fait partie d'une entité. Maintenant, des particularités, c'est là où je réponds à la question de M. Diallo. L'Ouganda, le président Museveni s'est vu poussé par la législation ougandaise qui est à majorité composée de ceux qui se disent chrétiens et qui, eux aussi, sont appuyés par leurs partenaires des églises qui sont ici aux États-Unis. Quand vous lisez, ils viennent ici, ils sont reçus. Donc là, ce n'était plus une question de la position de l'État ougandais, mais ce sont des individus avec une forte influence qui se sont mis et ont fait signer une législation basée sur leurs intérêts financiers surtout, avec les églises qui les financent à partir des États-Unis. Comme on le dit toujours ici, à chaque fois que vous recevez un chèque des églises ici, ou bien des particuliers, il faut voir si ce chèque n'est pas attaché de quelques conditions. Donc, ils ont avalé la couleuvre, qui est le chèque, et ils doivent respecter les accords qui viennent avec ce chèque-là. Il n'y a pas une position américaine officielle, comme M. Diallo l'entend, mais c'est une question des individus des églises américaines avec leurs partenaires qui sont dans l'Assemblée nationale en Ouganda.
Merci, Fidèle. Alors, je voudrais revenir au pasteur Daniel Kapepula. Pasteur, on parle de la séparation de l'Église et de l'État et de l'Église, mais si, par exemple, pour des raisons religieuses, on dit le mariage homosexuel est à bannir, ne doit pas être reconnu par l'État, est-ce que on ne cherche pas à imposer des valeurs religieuses à l'État dans ces conditions? Où est le mur entre, en quelque sorte, la société profane, l'État et la religion?
Oui, l'Église doit beaucoup à Dieu. Alors, Dieu aime le pécheur, mais haït le péché. Nous aimons le frère, nous aimons le sœur, nous aimons les hommes, nous les aimons. C'est l'amour de Dieu. Mais nous ne devons pas accepter que, parce que le péché, quand il est commis, il va créer la colère de Dieu sur toute la nation. Ça va créer beaucoup de Dieu. Nous qui connaissons Dieu, nous parlons en regardant Dieu.
Mais ceux qui...
Nous ne parlons pas en regarder ces mal-états.
Pasteur...
Et ça, si l'État permet aujourd'hui des choses qui sont pour le point de vue religieux antivaleur, on ne va pas dire que c'est parce que l'État a dit que nous, maintenant, l'Église, nous disons « Amen » à ce que l'État a dit.
Non, en fait, L'État ne peut pas se mêler si de toute façon on estime, on accepte le fait qu'il faut une séparation entre l'Église et l'État. Dans ces conditions, l'État ne peut pas entériner certaines positions religieuses, qu'il les aime ou ne les aime pas, etc. L'État doit tenir compte de son rôle qui consiste à garantir ses droits à tout un chacun. Et ceux qui préconisent et ceux qui défendent le mariage homosexuel disent qu'ils ont le droit, comme n'importe quel autre citoyen américain, d'avoir leur mariage, le genre de mariage qu'ils veulent. Mais cela dit, laissez-moi vous lire quelques commentaires avant de revenir à vous et à nos auditeurs qui attendent. Olda Alphonse Chris de la RDC Congo nous dit « Vaut mieux tard que jamais, je ne peux qu'encourager ces hommes de Dieu pour cette lutte qu'on attendait impatiemment, nous tous, et je leur souhaite plein succès dans leur démarche, et je cite « anti-satanisme ». Alors, Radjabou Ndaïsaba, ce qui a poussé ce front commun, c'est la voix de Dieu. Je pense qu'il n'y aura aucune répercussion, tout simplement, c'est la fin du monde. L'Ebola, le VIH-Sida sont des épidémies qui risquent de renverser le monde. Je lance un cri d'alarme pour lutter contre cette homosexualité. Dieu a créé l'homme pour la femme et vice-versa. Pourquoi l'homosexualité? Que Dieu protège le Burundi, dit-il, contre ces mariages. Et il nous écrivait depuis Gitega, au Burundi. Abdulaziz Diallo, on l'a entendu tout à l'heure. Robertson Eustache, pas de doute là-dessus. Ils ont finalement compris que s'il est vrai qu'on peut accorder un autre sens au mot mariage dans les dictionnaires, c'est impossible de le faire dans la Bible. Bref, où vilains sont ceux et celles qui veulent altérer la signification ou la compréhension justement humaine de ce mot. Akib Boureima du Niger, et il dit qu'il est grand temps qu'il sache que nul ne doit changer le cours de la nature, l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Kandanji Emmanuel Moto, salut. Il nous écrit de Kinshasa. Mon intervention et cette loi de l'homosexualité, nous ne tolérerons pas en Afrique. Et si nous interdisons les États-Unis, nous donnent l'embargo, mais grâce aux églises américaines, nous allons avoir la lumière sur ça. Écrit Kadanji Emmanuel Moto de Kinshasa. Amani Stevens, rectifiés, ils ne sont pas frères ennemis, mais Église, corps de Christ, dont chacun est membre. Enfin, il y a tellement de commentaires, je pourrais continuer à lire, mais je vais retrouver un auditeur qui nous appelle de... Joselle, allez-y.
Allô?
Oui, Dimitri, allez-y.
En fait, j'ai laissé un commentaire par rapport à votre sujet que vous aviez lancé.
Oui.
Ça qui concerne l'homosexualité.
Allez-y, Dimitri, posez votre question ou faites votre commentaire.
En fait, j'ai un commentaire, juste, j'ai soutenu les églises des États-Unis pour l'effort qu'ils ont manifesté en se mettant ensemble pour barrer la route à cette loi. Parce que nous savions bien, quand un président américain prête serment, il ne le fait pas en s'appuyant sur un livre ou sur ses pensées. Il tient la Bible et la Bible interdit l'homosexualité. Voilà pourquoi je suis d'accord avec ces églises et je dis que Dieu les bénisse parce que nous ne pouvons pas, en aucun cas, changer la loi de la nature. Dieu, quand il a créé l'homme,
merci,
il a dit que l'homme ne peut pas être seul. Sinon, Dieu allait créer l'homme par Adam. Mais il a créé Ève par Adam. Voilà pourquoi nous disons non à l'homosexualité.
Merci, merci. Alors, je donnerai une petite précision. Si le président était musulman, il prêterait serment sur le Coran. Donc, ce n'est pas une obligation dans ce pays de prêter serment sur la Bible. C'est parce que, tout simplement, les précédents présidents étaient chrétiens. Alors, vous avez, messieurs, revenons au prince Kamano, revenons à Fidel Lumeya et revenons au pasteur Daniel Capepula. Alors, vous avez entendu ces commentaires. J'ai l'impression que les Africains ont peur qu'on leur impose cette façon de voir les choses. Allez-y, Fidel.
Oui, il y a ici une question culturelle. La question de l'homosexualité, c'est comme toute la question de sexualité en Afrique, elle est taboue, on n'en parle pas. Je disais à mon épouse qu'après 55 ans d'âge, je n'ai pas vu un jour où mon père a donné un bisou à ma mère. Et pourtant, nous sommes nés d'un père et d'une mère. On n'en a jamais vu. Je n'ai plus vu aussi mon père tenir la main de ma mère et marcher ensemble. Mon père était pasteur.
Très bien. Prince Kamano, vous pensez qu'il y a une intention ici, dans ce pays, d'imposer cette façon de voir à l'Afrique?
Je dirais que, personnellement, bon, j'ai écouté ceux qui vous ont envoyé leur message et je ne souscris pas à une idée de haine contre n'importe quel comportement ou individu. J'ai mes positions vis-à-vis certains comportements, mais je pardonne beaucoup à ceux qui le font. Ça ne veut pas dire que je vais les jeter dans l'enfer. Non, je ne vois pas les choses de ce genre, de cette façon. L'un des problèmes clés qui se pose aux États-Unis, ici, selon mon opinion, comment le dire en français? En anglais, on dit mission creep. C'est-à-dire, on commence par le plus aisé et on mène les gens, disons, à l'enfer. Et finalement, on commence tout par sous les meilleures bases, on donne les meilleures raisons. C'est une question de liberté individuelle. Oui, il y a cet aspect dans la discussion, mais la réalité, à mon avis, je ne veux pas être trop, suspect en disant que c'est une façon de camoufler un agenda politique. Alors, avant, comme je disais dès le début, il a toujours existé des comportements. L'Église n'a jamais, à moins peut-être dans l'Antiquité, il y a eu des persécutions de certaines personnes, mais l'Église a évolué sans l'intervention d'un État et nous sommes beaucoup plus tolérants aujourd'hui envers ceux qui pêchent.
Merci.
Alors, mais le gouvernement s'engage maintenant à faire de tout comportement comme un droit humain. Non, tous les comportements ne sont pas des droits humains. Les gens peuvent se marier, même le mariage entre hommes et femmes, ça ne doit pas être une question d'État. L'État ne doit pas imposer que quelqu'un reconnaisse le mariage entre un homme et l'État. Si l'État veut accepter, qu'il l'accepte. Et imposer cela aux églises ou alors aux fidèles, moi je trouve cela que c'est une imposition et ça doit être résisté. Ce n'est pas seulement pour le cas de l'Église, c'est aussi résister, c'est-à-dire l'expansion extraordinaire du pouvoir de l'État.
Merci, Prince Kamano. Fidel, je crois que ce qu'on peut retenir dans ce que Prince Kamano a dit, c'est qu'il ne faut éprouver aucune haine pour des gens qui sont différents de nous, que ce soit le noir, que ce soit le blanc, que ce soit l'asiatique. Les gens sont différents, ou l'homosexuel dans ce cas, les gens peuvent être différents et nous devons respecter cette différence.
Oui, ça c'est vrai, c'est le grand principe humanitaire. Mais vous savez, entre la réalité et le principe, il y a cette, l'illusion. Il y a ce que nous sommes en train de faire face, c'est qu'il y a le phobie. Des gens deviennent phobiques quand ils découvrent que vous êtes différents. Où vos pratiques sont différentes des pratiques traditionnelles de la société. On a du mal à accepter cela. Et ça, c'est le grand problème dont vous venez de poser avec les Africains. Si cela existait en Afrique, il n'y a pas de traces d'histoire sur cela.
Okay.
Mais on le voit. Nous devons vivre avec la réalité. On ne doit pas la résister.
Merci beaucoup. Merci Fidèle. Merci au pasteur Daniel Capepula. Merci à Prince Kamanou, nos invités aujourd'hui. Et merci aussi à Joselle Morissin de l'autre côté de la vitre. C'était au micro Idrissa Seloudia. À la prochaine.